Merci Père. J'étais très, très impressionné par ce que nous venons d'entendre, qui effectivement est assez loin de ce que la Bible nous ouvre comme perspective. Je voudrais donc réfléchir avec vous ce soir sur la question suivante. Quelle espérance la foi chrétienne ouvre-t-elle pour notre corps? Est-ce que le corps de l'homme est destiné à disparaître? Vous allez me dire oui, c'est l'expérience que nous faisons les uns et les autres. Est-ce que c'est le dernier mot de la vie humaine? Est-ce que la foi nous laisse là devant la disparition de notre corps? Et bien sûr, nous touchons à la question plus large, qui est celle de savoir ce qui nous attend après la mort. On dit, parfois, je l'ai déjà entendu, c'est peut-être votre idée, qu'on n'en parle plus beaucoup dans les églises, dans les prédications. On en parle en tout cas moins qu'on le faisait jadis. Qu'est-ce qui nous attend après la mort? Ou, en tout cas, on est moins descriptif, moins précis. Pourtant, on ne peut éviter de se poser la question. Et souvent, on se la pose sous la forme d'un cri lorsque nous perdons quelqu'un que nous aimons, lorsque sa présence quitte le monde invisible, lorsque nous en souffrons pour nous-mêmes et aussi nous en souffrons pour lui. La question nous saisit, mais où est-il? Où es-tu? Comment va-t-il? Comment vas-tu? Et ces questions, peut-être un peu folles, que nous nous posons lorsque nous vivons l'épreuve du deuil, est-ce que la foi reste muette devant elle? Est-ce que la foi nous dit quelque chose lorsque nous nous demandons si nous pouvons encore dire tu à celui, à celle que nous aimions et qui nous a quittés? Et est-ce que je peux dire tu à celui ou celle qui m'a quitté sans penser à son corps? Est-ce que il ou elle peut exister quelque part sans son corps? Serait-ce cela l'éternité promise? Exister sans son corps? Disons-le tout de suite, et cela nous expliquera peut-être une certaine sobriété dans le langage des prédicateurs aujourd'hui. Il y a des traditions chrétiennes, surtout dans le monde protestant, qui choisissent d'écarter ce genre de questions. Parce qu'elles disent, la Bible ne parle pas de cela. Elle ne parle pas de cette manière-là. Elle nous dit autre chose. Elle nous dit une seule chose. Nous serons sauvés, vous et moi, si nous croyons en Jésus. Et cela doit nous suffire. Devant la mort, ne te demande pas comment cela va-t-il se passer après. Crois, et tu seras sauvé. Peut-être pouvons-nous dire « Oui, je crois, mais celui que j'aimais, l'ai-je perdu? Celle que j'aimais, l'ai-je perdu? Le la retrouverai-je? Comment le la retrouverai-je? Comment maintenant dois-je penser à lui, à elle? Est-il juste, est-il possible que je puisse m'adresser encore à lui et à elle, que je ne sens plus auprès de moi, lui dire-tu? Est-ce que, devant ces questions, la foi reste, au moins ici-bas, muette? La tradition catholique n'est pas aussi tranchante que ce que je viens de dire. Elle pense que la Bible, ou plus largement la parole de Dieu, ce que le Christ est venu nous révéler, eh bien, cela nous éclaire sur ce que l'homme est et aussi sur ce qu'il devient après sa mort. C'est ce que je voudrais essayer de développer un peu maintenant. La tradition catholique, donc je dis tradition catholique parce qu'encore une fois, ça n'est pas le cas de toutes les traditions chrétiennes, pour la raison que je viens d'évoquer rapidement. La tradition catholique recueille et s'approprie ce que j'appellerais un certain savoir sur l'homme qui s'est constitué au travers des siècles autour du thème de l'immortalité de l'âme. L'immortalité de l'âme, c'est même un dogme défini de foi catholique, mais formulé comme tel, comme dogme, depuis le XVIe siècle seulement, à une époque où un concile a réagi contre les théories de certains philosophes italiens qui, à la lecture des penseurs grecs, notamment d'Aristote, en étaient venus à affirmer que l'âme humaine n'était pas immortelle. Mais il faut bien que nous essayions de comprendre ce que la foi catholique veut tenir lorsqu'elle affirme l'immortalité de l'âme. La croyance en la survivance de l'homme, ou au moins de quelque chose de l'homme, quelque chose de son moi, après la mort, est, je crois pouvoir le dire, universellement répandue. Elle semble caractéristique de l'homme jusqu'au point qu'elle le différencierait de l'animal. D'où la description que nous trouvons dans toutes les civilisations anciennes du monde des disparus, du monde des défunts, mythologie égyptienne, grecque, latine. Tout cela, donc ce que l'homme a pu dire dans les temps anciens sur ce qu'il attendait après la mort, tout cela est passionnant et très instructif, très touchant. Je lisais récemment quelque chose sur les hommes préhistoriques qui enterraient leur mort en position de fœtus, comme s'ils espéraient que leurs frères en humanité qu'ils avaient confiés à la terre renaîtraient un jour. Tout cela est passionnant, nous dit beaucoup de l'homme, instructif, très touchant. Peut-être que ceux que nous appelons parfois des primitifs, comme les enfants, sont capables de voir ce que nous ne voyons plus. Après tout, c'est peut-être eux qui avaient quelque chose dans le cerveau qui nous manque aujourd'hui. Tout cela est passionnant, mais constatons-le, ces descriptions de l'au-delà, elles sont quasiment absentes des écrits canoniques de notre foi, ce que nous a ligué Israël, ou dans le Nouveau Testament. Et même on trouve plus que de la réserve par rapport à toutes les tentatives qui sont faites pour rejoindre par des moyens humains le monde des défunts. Je pense par exemple à l'interdiction de la nécromancie. Interdiction formelle en tout cas, d'établir par la magie un contact avec les morts. Par ailleurs, la tradition chrétienne n'a pas méprisé, interdit toute interrogation sur la destinée de l'homme après la mort. Et je vous ai déjà dit qu'elle avait même intégré, assimilé exprimer la foi des éléments de la réflexion des philosophes grecs relatifs à l'homme et à son immortalité. Disons-le tout de suite, la réflexion des anciens dans le monde grec était très ouverte, pleine de perplexité. Il n'y a pas une anthropologie grecque, une conception grecque de l'au-delà. Il est très simpliste de dire que l'immortalité de l'âme, c'est la philosophie grecque. Non, leur pensée était beaucoup plus complexe, beaucoup plus perplexe. Mais des philosophes, je pense d'abord à Platon, d'une autre manière à Aristote, ont discerné qu'il y a quelque chose en l'homme qui est incorporel et donc impérissable. Ça, c'est un discernement lent, patient, par les moyens de la dialectique, de la raison philosophique, et c'est une grande avancée dans le progrès de la pensée humaine, je crois. On a réfléchi tout à l'heure au progrès. Il y a peut-être des choses que l'on perd, hein, mais des choses essentielles que l'on perd dans la conscience que l'homme peut avoir de lui-même lorsque il se confie plus en plus en la technique. Et voilà un discernement, en tout cas, qui n'était pas de l'ordre du mythe, comme ceux que j'ai évoqués précédemment, mais qui est le fruit d'une longue méditation chez notamment Platon et Aristote, et qui en arrive à conclure qu'il est en l'homme quelque chose d'incorporel et donc d'impérissable, du fait même que l'homme est capable de penser l'incorporel, de penser l'impérissable, de s'élever en esprit jusqu'à l'éternel. Il pense le divin. Et donc il y a quelque chose en lui de divin. C'est ce que l'on appellera l'intellect, nous en grec, ou l'âme intellective, la psyché, reste entier, une fois qu'on a dit qu'il y a quelque chose en l'homme qui n'est pas corporel, parce que ce quelque chose est capable de penser l'incorporel, l'éternel, reste entière la question du rapport de cet intellect qui est en moi avec moi-même. L'intellect est immortel, il y a quelque chose en moi d'immortel, mais quand le corps perd son souffle, lorsqu'il se dévitalise, lorsque disparaît le corps, lorsque le contact est coupé entre le corps que je vois et cet intellect, que devient le moi? Or, n'est-ce pas, c'est le moi qui m'importe. Quand j'aime quelqu'un, pour reprendre la question dont je suis parti, ce qui m'importe, ce n'est pas les idées de celui ou de celle que j'aimais. Ce n'est pas les atomes dont était composé son corps. Ce qui m'importe, c'est lui. C'est elle. Que deviennent-ils après la mort? La question reste entière. À partir des philosophes, on peut dérouler diverses opinions. Certains diront l'intellect, cette part d'immortel, d'incorporel qui est en moi, qui est capable de le penser, eh bien, c'est quelque chose qui, je dirais, transite en l'homme, sans être l'homme lui-même. Lorsque l'homme disparaît, l'intellect, lui, survit. C'est une façon de comprendre Aristote, c'est-à-dire cette façon qui a fait qu'au début du XVIe siècle, des philosophes italiens ont développé des théories de la mortalité de l'âme qui ont été condamnées dans la formulation de l'immortalité de l'âme, donc au concile de Latran V. Donc, première opinion, Hein, l'intellect, c'est quelque chose qui transite en l'homme, mais quand le corps se dissout, eh bien, l'intellect coupe le contact. Voilà. Il y aurait une autre opinion selon laquelle l'homme sait l'intellect. Et donc, la vie terrestre, c'est l'intellect emprisonné dans le corps. La mort, c'est la libération du corps pour l'intellect. Ça, c'est une manière de comprendre Platon. Je ne dis pas que c'était la pensée de Platon, mais c'est une manière dont on peut comprendre Platon. Et la deuxième opinion a été condamnée tout comme la première. En fait, elle a même été condamnée avant la première. Je vais un petit peu jargonner, mais pas trop. Au Moyen-Âge, l'Église a défini comme un dogme, comme une affirmation qu'il faut tenir pour que l'intelligence de la foi reste juste. Donc on a défini comme étant un dogme le fait que l'âme était forme du corps. C'est une expression qui vient d'Aristote, et en fait ça veut nous dire que l'homme, le chrétien doit le considérer comme étant union d'un esprit et d'un corps matériel, et jamais l'un sans l'autre. L'homme est un corps et une âme. Et l'âme, entendez ce qui en nous est principe d'intelligence, de pensée, c'est ce qui structure et ce qui vivifie le corps. L'âme est forme du corps. Forme au sens justement où l'âme est principe de structuration et principe vivifiant pour le corps. Et ce qu'on veut défendre là, c'est l'unité de l'être humain, inséparablement esprit et corps. Être un homme, c'est être tout à la fois esprit et corps. Ça veut dire que l'homme, on ne saurait le réduire au corps sensible, mais que par ailleurs, l'homme n'existe pas sans un corps sensible. On ne peut concevoir un homme sans corps. Alors, j'ai évoqué quelques définitions des consignes un peu abstraites. Si vous voulez, nous allons ouvrir la Bible. Ouvrons le prophète Isaïe au chapitre 6. Vous connaissez ce grand texte. Prophète Isaïe a une vision dans le temple. Et qu'est-ce qu'il voit ? Je vis le Seigneur qui siégeait sur son trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus. Ils se criaient l'un à l'autre : Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. L'homme, dans la Bible, est cet être capable de voir ça, c'est-à-dire de voir le Seigneur de l'univers et ses anges, bien au-dessus de la terre. Notre monde visible, le monde du quotidien du prophète, il est tout petit. C'est comme la frange du cosmos, l'extrémité du manteau de Dieu. Et le temple, comme l'esprit du prophète, sont un point de jonction entre le visible et l'invisible. L'homme ainsi, l'homme des psaumes, l'homme du temple, le prophète, nous apparaît comme, je dirais, un être amphibie. Je verrais bien comme un poisson volant, si vous voulez. Il est terrestre, mais son regard s'étend en quelque mesure, au-delà de la terre, au-delà du monde sensible. Il est capable d'apercevoir quelque chose de Dieu et de ses anges, et de voir, à partir de là, sa gloire emplir la terre. De regarder le monde à la lumière de ce qui est au-delà du visible. Ce monde visible n'est donc pas le tout de l'univers. Et le corps de l'homme n'est pas le tout de l'homme. Et même, c'est tout petit, c'est pas grand-chose. C'est la frange du manteau. Mais cela est, si petit qu'il soit, et cela est bon. Cela, le corps, est nécessaire à l'homme. L'homme, ce petit roi, dans son domaine, dans son jardin, créé à la gloire de Dieu. L'homme est un être corporel et il est bon qu'il le soit. Il a été créé ainsi et Dieu l'a béni ainsi. Mais il est capable de percevoir quelque chose au-delà du visible, de Dieu et de sa gloire, bien au-delà des corps et même bien au-delà des esprits créés. L'homme peut-il exister sans son corps? L'âme peut-elle subsister sans le corps? Oui, sans doute, mais quelques remarques. Si l'âme peut exister sans le corps, la foi, en vertu de ce que je vous ai dit, nous enseigne que même séparée du corps, elle ne peut que demeurer l'âme de ce corps. Un exemple. Prenons un migrant. Il a quitté son pays, la Syrie. Il est maintenant dans le pays qui l'accueille, disons la France. Même s'il change de nationalité, il n'en demeure pas moins l'enfant de sa terre, de la nation qu'il était obligé de quitter. Eh bien, l'intellect humain, l'intelligence humaine, la pensée humaine, l'intellect humain ne naît pas autrement, ne grandit pas autrement qu'uni au corps. C'est ainsi que Dieu l'a créé, l'a voulu, l'a béni. Et en ce sens, là au moins, l'âme est toujours l'âme de ce corps. L'âme immortelle est toujours l'âme de ce corps. De même qu'un homme est toujours enfant de la terre qu'il a vu naître et où il a grandi, même s'il l'a quitté. Donc, à supposer que l'âme puisse exister sans le corps, ce que la foi chrétienne nous dit de l'unité de l'âme et du corps nous conduit à affirmer que l'âme humaine, immortelle, est toujours l'âme d'un corps, même si elle se trouve, du fait de la mort, séparé de ce corps qui fut le sien. La mort. Pourquoi? Pourquoi l'âme se retire-t-elle du corps? Que devient-elle après une telle séparation? Abstrait, pas vraiment. Lorsque nous crions, comme je l'ai dit, à celui à celle que nous avons aimé, où es-tu? Comment es-tu? Comment vas-tu? Qui es-tu maintenant? Te reverrai-je? La parole de Dieu ne nous laisse pas sans réponse. Mais elle ne nous propose pas d'emblée une description de l'au-delà. Ou du moins, elle ne part pas de là, comme dans les mythes anciens, une cartographie de l'au-delà. Elle part, bien sûr, aujourd'hui, de la résurrection de Jésus, corps et âme. Mais avant de parler de la résurrection de Jésus, je voudrais remonter dans le temps. Nous savons que les Juifs, certains Juifs, croyaient en la résurrection des corps. D'où a pu leur venir cette foi? Pour comprendre l'expérience qui a pu les conduire à affirmer non seulement l'immortalité de l'âme, sous une forme ou une autre, mais la résurrection des corps, nous pouvons partir d'une autre page de la Bible. Et je vous propose de nous souvenir maintenant de Job et de son cri. Vous vous souvenez, Job, frappé d'un ulcère malin, couché sur son lit de cendres. Job qui n'est pas juif, qui n'est pas grec, qui n'est pas égyptien, qui n'est pas perse, qui est un cheikh du désert, mais qui vit profondément le mystère de l'alliance de l'homme avec Dieu. Nous dirions qu'il vit profondément de vie théologale, qui n'est pas juif, mais c'est bien un juif qui le fait parler, qui le fait parler comme parle le juif, aux environs du 3e siècle avant Jésus-Christ, un peu comme Charles Péguy fait parler Jeanne d'Arc, l'homme du 20e siècle fait parler la femme du 15e. Un juif du 3e siècle fait parler un homme des temps anciens qui n'était pas juif, qui a vécu un millénaire avant lui. Un juste qui vit avec Dieu et pour Dieu, mais sur lequel le malheur s'est abattu. Un malheur si grand que il en vient à maudire le jour de sa naissance. Il souhaiterait mourir. Mieux aurait valu qu'il ne voit pas le jour. Tout au long du dialogue qui oppose Job et ses amis, jamais Job n'invoque l'espérance d'un au-delà. Il semble qu'il n'y ait pas pour lui d'espoir, sinon sur cette terre. C'est bien mystérieux, tout de même. J'allais dire, il n'y pense pas. Cet homme qui pourtant a voyagé, sans doute, ou du moins l'auteur du livre, connaît les sagesses d'Égypte, les sagesses de Grèce, et les contemporains des grands tragiques grecs. Il n'y pense pas. J'allais dire, il n'en veut pas. Pourquoi? Vous savez que face à ses amis, Job proteste de son innocence. Son malheur n'est pas la suite en lui du péché. Il est innocent. Et il veut que justice lui soit rendue. Et si les hommes ne la lui rendront pas, que Dieu la lui rende. Le cri de Job, c'est le cri de celui qui demande que justice lui soit rendue. Et il n'est pas envisagé, il ne veut pas envisager que justice lui soit rendue dans l'au-delà du monde visible. La justice de Dieu devrait s'accomplir en notre monde. La justice de Dieu devrait être rendue au monde. C'est ce monde-ci, en définitive, qui doit être justifié. C'est ce monde-ci, mon existence en ce monde, qui devrait être justifiée. Et à travers la justification de ce monde-ci, de mon existence, c'est la justification de Dieu qui les a créés. Et c'est ce qui fait que Job est étonnamment moderne. J'ai aussi cité un extrait que j'ai travaillé avec l'un d'entre vous il y a quelques années, de Spesalbi, Benoît XVI, hein, que nous avons cité tout à l'heure, où Benoît XVI écrivait « L'athéisme contemporain, c'est un moralisme, une protestation contre les injustices du monde et de l'histoire universelle. » Un monde dans lequel existe une telle quantité d'injustice, de souffrance, des innocents, de cynisme du pouvoir, ce monde ne peut être l'œuvre d'un Dieu bon. Le Dieu qui aurait la responsabilité d'un monde semblable ne serait pas un Dieu juste, et encore moins un Dieu bon. Dans le cri de Job, dans sa protestation, il y a de cela, il y a la revendication que Dieu justifie ce monde si chargé de souffrance, se justifie d'avoir créé le monde tel que nous le voyons. Eh bien, la protestation de Job est plus proche de la vérité que les condamnations effarouchées de ses amis, selon la Bible. Contre toute espérance, il espère. Il n'espère pas une somme de plaisirs qui viennent contrebalancer une somme de douleurs, une somme de plaisirs dans l'au-delà qui viennent contrebalancer la somme de douleurs dans notre monde. Mais il espère la bonté et la justice de Dieu. Et donc, ce qu'il espère, contre toute espérance, c'est la bonté et la justice de ce monde que Dieu a créé, dont Dieu doit répondre. Ce qu'il attend, c'est que Dieu réponde de ce monde qu'il a créé. Il espère sans voir. La force de cette espérance lutte contre toute évidence. Et c'est elle qui fait jaillir, la première fois dans la Bible, de façon si claire, les premières intuitions de la résurrection des corps. Job, chapitre 19, verset 13 et suivant. Ah, si seulement on écoutait mes paroles, si on les gravait sur une stèle, dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière, et quand bien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu, je le verrai moi en personne. Et si mes yeux le regardent, il ne sera plus pour moi un étranger. Texte mystérieux, texte d'ailleurs qui a connu plusieurs versions, texte qu'on a du mal à transmettre, à comprendre, dont on peut discuter de sens, mais c'est une fulgurance au milieu du gémissement, des gémissements de Job. Et peu après Job, de façon quelques décennies près peut-être, disons un siècle près contemporain, nous avons les confessions des martyrs d'Israël qui diront de façon plus claire, plus explicite, premier livre des martyrs d'Israël, chapitre 7, verset 9, face au roi persécuteur, « Puisque nous mourrons par fidélité aux lois de Dieu, lui, le roi du monde, nous ressuscitera pour une vie éternelle. Hein ? Puisque par fidélité pour lui, tu nous arraches nos membres, Dieu nous les rendra. Et nous ressusciterons pour la vie éternelle. C'est autre chose que l'immortalité de l'âme. C'est aussi un contexte de souffrance, d'épreuve. Et c'est au nom de la justice, c'est au nom de la bonté de Dieu. C'est parce qu'il doit répondre de ce qu'il nous a donné et de notre corps. Que, de façon fulgurante comme chez Job, de façon plus claire dans la bouche des martyrs d'Israël, nous voyons naître la foi en la résurrection des corps. Dieu doit faire justice. Plus que compenser plus tard la souffrance d'aujourd'hui, Dieu doit justifier notre monde et son histoire. Le corps de l'homme est-il destiné à disparaître ? C'était notre question. Ce monde visible qui lui sert de cadre est-il destiné à être anéanti ? Comme si Dieu allait effacer l'ardoise et puis faire quelque chose de tout à fait différent. Comme s'il allait se justifier d'un premier échec par un autre essai. Non. Ce que Dieu a créé, cela est bon. Cela est béni. Au terme, nous comprendrons que cela est bon. Au terme, nous comprendrons qu'il fallait souffrir cela pour entrer dans la gloire. Et ces paroles sont les paroles de Jésus. Au chapitre 24 de Luc, les paroles recueillies par les pèlerins d'Emmaüs sur les lèvres du ressuscité. Le Christ est ressuscité pour nous chrétiens. Souvenons-nous, au dernier repas, il a pris le pain, il a pris la coupe, il les a bénis en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang livré pour vous ». À la veille d'une mort terrible, il rend grâce pour sa vie terrestre sur les éléments de ce monde visible, le pain et le vin. Jésus s'offre en son corps. Et le corps, n'est-ce pas, pour l'être humain, ce en quoi et par quoi il peut se donner. Se donner sur le mode de l'une fois pour toutes. Parce que le monde de la temporalité, le monde de la matière, c'est le monde de l'irréversible. Ce qui ne veut pas dire de l'irréparable. C'est le monde où, du fait même de cette limite, le don peut être accompli une fois pour toutes. Et Jésus, après avoir fait triompher l'amour et accompli toute justice dans sa passion une fois partout, une fois pour toutes, est entré dans la mort, puis fut rendu à la vie. Et celui qui croit en lui partage sa destinée. Ce n'est donc plus pour le chrétien une espérance crue contre toute espérance, en vertu de la fidélité du Dieu de l'Alliance, et c'était déjà tellement extraordinaire, mais c'est une affirmation qui jaillit de l'espérance, de l'expérience, pardon, de la vie avec le Christ, de la vie avec le ressuscité. C'est l'Esprit qui nous donne, qui nous le fait espérer. Paul, aux Romains, chapitre 8, l'Esprit habite en nous. Si le Christ est en nous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par l'Esprit qui habite en vous. Ainsi, ce n'est pas simplement, uniquement, l'immortalité de quelque chose en nous, l'immortalité de l'âme que la foi chrétienne nous fait espérer, mais nous tenons la promesse d'une résurrection, d'une restauration, d'une transfiguration de toute chose créée par Dieu dans le temps et dans l'histoire. Ce n'est pas une compensation qui nous est promise, mais c'est une réparation que nous attendons. Mais en attendant, me direz-vous, répondez à la question, où est-elle cette personne que j'aimais? Comment va-t-elle? Puis-je lui parler? Ce que vous m'avez dit, qu'est-ce que ça me permet d'espérer? Oui, ce que me dit la parole de Dieu, c'est que c'est bien elle qui intéresse Dieu. C'est bien elle, la personne qui nous a quittés, qui concerne Dieu et ses promesses. Elle, telle que son histoire l'a faite. Elle, en ce qu'elle a de tout à fait singulier, c'est elle qui, une fois pour toutes, est entrée dans l'éternité. Pas quelque chose d'elle, mais elle, dont Dieu sait le nom. Cette âme charnelle, comme disait Peggy. Comme chacun d'entre nous, elle a été appelée à donner sa réponse, une fois pour toutes, à l'appel de Dieu, avec tout ce que son histoire avait fait d'elle, non pas malgré son corps, mais à la faveur du corps que Dieu lui avait donné. Oui, c'est bien elle. Oui, la parole de Dieu nous dit que nous restons en lien. Le sentiment de sa présence m'est enlevé. Quand je l'appelle, je n'entends pas de réponse. Mais nous devons espérer pour tous que, vivants et défunts, vivant sur cette terre et défunts, nous communions au même amour. Et même, la parole de Dieu m'a enseigné que nous nous retrouverons. Au-delà de ma propre mort, au-delà de l'histoire, que nous nous retrouverons dans une communion spirituelle, non pas seulement crue, mais vivement expérimentée. Et lorsque tout aura été récapitulé par le Christ, lorsque tout pourra enfin, parce que récapitulé par lui, se relever en lui, tout ce qui constitue notre monde, au-delà du jugement final, du jugement dernier, quand toute chose, quand tout être, quand tout événement aura trouvé sa place dans le dessein d'amour miséricordieux du Père, quand nous saurons que tout aura été grâce, alors nous nous retrouvons. Nous croyons que nous ressusciterons, que tout ce que Dieu a créé de nous est promis à la résurrection, que l'être que j'ai aimé, que j'aime, qui est âme charnelle, Dieu l'aime et vient à son secours, que nous demeurons unis dans l'amour et aussi dans le corps du Christ, dont nous sommes membres. Bien. Mais comment? Comment cela se fera-t-il? Alors là, vous impatientez un peu le théologien que je suis, mais un peu comme les Corinthiens auxquels s'adressait saint Paul. Ce sera la dernière page de la Bible, premier épître aux Corinthiens, chapitre 15. Paul a dit: nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas résurrection des morts? Le Christ est ressuscité des morts. Et donc, nous ressusciterons. Oui, mais quelqu'un pourrait dire: comment les morts ressusciteront-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? Premier épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 55. C'est la question à laquelle que pose lui-même Paul, qui met dans la bouche de ses destinataires. Et comment répond-il ? Il ne répond pas sur le mode du mythe. Il ne répond pas non plus sur le mode du discours philosophique. Il répond sur le mode du symbole, c'est-à-dire de ce que l'expérience de la vie nous donne de connaître et qui nous ouvre au-delà de la vie, au mystère. Réfléchis donc, écrit Paul, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d'abord. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c'est une simple graine de blé, par exemple, ou autre chose. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Remarquons bien, dans cet enseignement de Paul, que c'est la même réalité qui est semée pour ensuite être transformée par la puissance divine et transfigurée. De même, il nous est donné d'espérer une transformation de la matière et des corps. Mais ce sera toujours le corps autrement, mais ce sera toujours notre corps. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que le corps ? Eh bien, c'est beaucoup plus que nous ne voyons, beaucoup plus que nous ne savons. Le chrétien, c'est celui pour qui Dieu, la vie, l'être humain sont des mystères. Pour lui, il y a beaucoup plus de questions que celui qui affirme ne pas croire. Mais ce sont de belles questions, des questions portées par l'espérance que nous a donnée Jésus. Je vous remercie.